Vous voyez, c'est un culte de synthèse.
C'est le jour des synthèses. Bon, je vais essayer de ne pas être trop longue. Simplement, en regardant les réponses, j'étais assez impressionnée par les réponses que vous avez faites à ce questionnaire. Et honnêtement, quand on regarde les réponses, on se dit, mais ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. C'est vraiment tout ce qu'on voudrait, oui, mais voilà, on est humain. Et j'ai pensé un peu la même chose aussi en repensant à tous ces messages sur les uns les autres, qu'on continuera d'ailleurs après, parce qu'on n'a pas terminé. D'accord, tout ça, c'est le plan de Dieu pour les humains, mais on n'est pas capable de le mettre en pratique si on ne regarde pas à lui. Hein, c'est pas possible. Hein, nous sommes trop imparfaits, trop pécheurs, même malgré tous les efforts qu'on peut faire, c'est pas possible. Par contre, avec le Seigneur, c'est différent. Si on s'appuie sur lui et si on cherche à bien le garder au centre de notre raisonnement, de notre façon de voir, de notre regard, là, ça va être, c'est tout à ça devient possible. Et c'est pareil pour ce message sur les uns les autres. Franchement, c'est une série. Quand j'ai relu mes notes hier pour faire la synthèse, et je me suis dit, oh là là, si on le prend sans mettre Jésus au centre, c'est une série de il faut pas, tu dois pas, mais c'est horrible, c'est un code de conduite, c'est une série de lois, et vous savez, comme a dit Jésus, hein, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et on a besoin de cet esprit qui est l'esprit de Jésus, cet esprit qui nous permet d'obéir à toutes ces injonctions, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Si on sort Jésus de l'équation, c'est même pas imaginable. C'est une série de lois, c'est desséchant, c'est frustrant, c'est culpabilisant. Et voilà, et chaque fois que je préparais le message, vous vous souvenez que je l'ai dit souvent, oh là là, ça fait moralisateur. Et c'est effectivement, si on ne se centre pas sur Jésus, ça peut faire moralisateur. Donc je rappelle juste que l'Église, c'est justement le cœur du « les uns les autres ». C'est au cœur du les uns les autres. Parce que si chacun vit sa vie chrétienne, on va dire par vidéo, puisqu'on est au 21e siècle, c'est faisable, bien sûr. Mais c'est 100 fois dans le Nouveau Testament, 100 fois, où on parle de les uns les autres, n'existe plus. Alors évidemment, moi je trouve beaucoup plus confortable, franchement, sincèrement, humainement, de vivre sa vie chrétienne, sa vie d'église par vidéo. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de désaccord, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde chante, enfin, c'est magnifique, c'est vraiment agréable. Bon, je ne dis pas qu'une fois de temps en temps, ça fait du bien, hein. Mais voilà, mais ce n'est pas le plan de Dieu sur la durée. Bon, le Covid en a décidé autrement, mais mis à part les problèmes sanitaires, ce n'est pas le plan de Dieu sur la durée. Autrement dit, le plan de Dieu, c'est que, eh ben, on grandisse à l'intérieur d'une église locale. Et c'est terrible. Vous vous souvenez que Sartre a dit, l'enfer, c'est les autres. et l'Église, c'est les autres. Aïe. Bien. Alors, je fais juste un résumé rapide. 100 fois, ça a été cité en Nouveau Testament, les uns les autres. Et 50 accompagnés d'un ordre. Ouh. Hein, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, etc. La moitié des fois, c'est avec un ordre clair du Seigneur. Et 16 fois... Sur ces 100 fois, c'est 16 fois avec « aimez-vous les uns les autres ». Donc, le Seigneur savait que ce ne serait pas facile pour qu'il se répète comme ça. Vous savez, quand Dieu répète quelque chose dans la Bible, il y a une raison, ce n'est pas juste pour remplir du papier. C'est que, bah, il sait que c'est difficile. Et il ne faut pas non plus qu'on s'affole, il le sait et il le comprend. Il comprend que les relations sont difficiles, il comprend qu'il y ait des désaccords. De toute façon, lui, il en a vécu des désaccords, le Seigneur, hein. Rien qu'avec les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux, et même avec ses disciples. Donc le pauvre, il en a vécu, il sait ce que c'est. Donc ce n'est pas la peine de se culpabiliser à l'extrême, ça fait partie de la vie d'Église. Par contre, ce qui est important, c'est la relation verticale avec Dieu, accompagnée de la relation horizontale avec les autres. Si on supprime, ou si on passe en second plan la relation verticale avec Dieu, la relation horizontale, c'est même pas la peine d'y rêver, ça sera très 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 difficile, quasi impossible. Et cette relation se fait à la fois dans l'Église universelle, parce que souvent les gens qui vivent par vidéo maintenant disent « mais moi j'appartiens à l'Église universelle ». Amen, tant mieux. Mais le plan de Dieu était clairement sur l'Église locale, qui reste le plan du Nouveau Testament. Relisez le Nouveau Testament, l'Église locale reste le modèle du fonctionnement. Et on n'est pas du tout appelé à devenir des ermites. Alors parfois, on aimerait bien être sur une île déserte, surtout les mamans, quand elles sont bien crevées, là. On aimerait bien être sur une île déserte, je pense que j'ai des échos dans l'Assemblée. Mais voilà, on n'est pas appelé à être des ermites, même si de temps en temps, quelques heures d'ermitage nous feraient du bien. On est vraiment appelé à vivre avec les autres. Mais la vie dans le grand local n'est pas facile. C'est une école de formation. Et une école, c'est jamais marrant. Alors, je pense à Olivier qui n'aime pas trop l'école. Mais c'est vrai que, bon, il y en a qui aiment l'école, hein, j'en fais partie, mais c'est peut-être pas la majorité. L'école, c'est quand même un lieu où on peine, où on se stresse. Moi, je me stresse beaucoup, j'en rêve encore la nuit d'ailleurs, parce que ça m'a visiblement stressée, l'école. Mais la vie dans l'église est une école de formation, tout comme la famille. Et la première, c'est la famille. Et Dieu sait que la famille, c'est une école de formation, parce qu'il se trouve qu'on n'est pas des clones. Et donc, les frottements dans la famille, c'est évident depuis le tout jeune âge. Hein. Mettez deux petits de la même famille ensemble, vous allez voir, pas facile. Trois, quatre, ça se complique. Voilà, c'est une école de formation. L'église, ensuite, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est le monde. Hein, les collègues au travail, les gens qu'on côtoie, etc. Alors, on a passé beaucoup de temps sur « aimez-vous les uns les autres ». Là aussi, ça peut sembler un code de conduite vachement moralisateur. Et si on oublie qu'on ne peut aimer l'autre que grâce à l'amour de Jésus pour nous, effectivement, c'est l'horreur, c'est, voilà, il faut. Et j'avais insisté sur le fait que aimer l'autre, c'est chercher son bien. À tel point d'ailleurs qu'en italien, j'avais toujours été choquée par ça. Aimer, bon, c'est amar, et bon, c'est, voilà, c'est aimer comme ça. Mais aimer, dans la perspective d'un mariage par exemple, c'est voler bene. C'est vouloir le bien. Et ça, c'est frappant qu'une langue le rende à ce point-là. Quand j'ai vu que Kuhn disait aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, j'ai forcément pensé à ça. Et c'est vouloir le bien. Et aimer, c'est aimer comme Jésus. Et on avait passé en revue, hein, Jésus a aimé tous les gens parce que tous avaient une valeur, que ce soit le lépreux, la prostituée, le pharisien, peu importe, tous avaient une valeur. Amour, mais par contre, je me suis posé la question hier en relisant mes notes, il avait quand même une certaine sévérité avec les pharisiens, les religieux, les hypocrites et les gens méprisants. Et c'est le seul domaine, si je ne me trompe pas, où Jésus était assez sévère, hein, même parfois très sévère. Et il a supporté beaucoup de choses, mais il a très mal supporté l'hypocrisie, le mépris, la religiosité des pharisiens. Et c'est le seul moment où on le voit aimer les gens, mais exprimer une sévérité. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui peut nous parler au niveau de l'amour. Il faut que notre amour soit vrai. Sinon, ça marche pas, c'est plus dans l'amour de Jésus. Et on s'était attardé sur le fait que l'amour de Dieu, vous vous souvenez de ce verset qui parle de la longueur, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et moi, je vous disais, ce verset, moi, je voyais pas du tout ce qu'il voulait dire. Et ben, j'avais bien aimé l'analyse de Kuhn. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi, je trouve qu'elle est parlante. La largeur de l'amour de Dieu, c'est qu'elle s'étend à tous les hommes et il faut élargir nos cœurs. Sa longueur, c'est qu'elle dure dans la durée, tous les jours. Sa profondeur, ben, c'est pas superficiel, c'est lié à la compassion. Jésus pleure devant le tombeau de Lazare, pleurait avec ceux qui pleurent, etc. Et il va l'exprimer profondément jusqu'à la croix. Et la hauteur, ben, oui, l'amour de Jésus n'est pas mesquin. Il voit en perspective, il voit plus loin, il prend de la hauteur, il voit ce qu'on peut devenir. Et on avait donné l'exemple de l'apôtre Paul. Jésus voit ce qu'on peut devenir, donc il voit sur la hauteur, il voit loin. Et c'est ce qui se passe aussi, ce qu'on essaie de faire avec le ministère de la Maison d'Élie, voir ce qu'on peut devenir. On s'est longtemps attardé sur 1 Corinthiens 13. Alors là, je vais passer très rapidement parce qu'on l'a bien vu ensemble. L'amour n'est pas envieux, jaloux ou possessif. Servir Dieu avec les dons que j'ai. Remercier Dieu pour ceux des autres. Ne pas jalouser les dons des autres, mais remercier Dieu parce qu'il y a une complémentarité dans le corps local. Donc réjouissons-nous pour ceux qui peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Moi, je ne pourrais absolument pas travailler dans l'équipe de louanges, mais je remercie Dieu pour ceux qui y sont. Et voilà. Et je pense que chacun puisse faire ce que Dieu lui demande de faire et ne pas jalouser les autres. On avait dit aussi, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Et donc, on avait parlé du problème de parfois d'évaluer les autres pour se grandir soi-même. Ou, comme les premiers chrétiens, certains premiers chrétiens, prendre le parti de l'un contre l'autre. Moi, je suis de Paul et moi d'Apollos. Et Paul, il est mieux qu'Apollos. Et non, Apollos est mieux que Paul. Voilà, ça fait partie du manque d'amour et voilà, à fuir. L'amour de Dieu, c'est aussi un amour qui n'agit pas à la légère. Il a des égards avec les autres et il cherche à ne pas scandaliser. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et on avait, bien sûr, on comprend bien ce verset. Par contre, il y a un aspect dont on parle moins, c'est être capable de reprendre quelqu'un quitte à perdre son amitié. Ça, c'est extrêmement difficile. Et Paul dit ceci, « Même si en vous aimant davantage, je dois être moins aimé de vous. » Jolie formule qui veut dire que, ben, voilà, si je vois quelque chose qui ne va pas, tant pis si tu m'aimes moins, mais je vais quand même te le dire. Avec amour, mais je vais quand même te le dire. Et pour moi, c'est quelque chose de très difficile, mais il faut absolument le faire, parce que c'est ça, aimer les gens. Ce n'est pas regarder la personne traverser quand on voit une voiture de course qui avance à toute voile sur la route et ne rien dire. Hein. L'instinct, ça va être de dire « Retourne sur le trottoir, ne traverse pas !» Et je pense qu'il y a des moments dans la vie où on n'a pas envie. Moi, je me souviens de quelqu'un dans l'église qui avait échoué son examen d'infirmière 3 fois et je savais quoi lui dire et je n'osais pas. Parce que je me dis, elle va vraiment pas m'aimer si je lui dis que c'est à cause de son comportement. Elle a un comportement qui passe pas. Et oh là là. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Elle a accepté, elle a repassé son examen et elle l'a eu. Parce qu'elle a compris qu'il y avait un changement de comportement qui, à l'oral, posait problème, qui ne posait évidemment pas problème à l'écrit. Mais vous voyez, c'est difficile de dire à quelqu'un, écoute, voilà. Mais je crois que ça fait partie de l'amour. Si on aime les gens, on veut leur bien. Et j'avais vraiment envie qu'elle réussisse son examen, je la voyais pleurer, et je me disais, non, là, il faut que je lui dise la vérité. Mais c'est dur. L'amour ne s'irrite pas, l'amour ne trame pas le mal. J'aime bien cette traduction, vous avez remarqué, c'est la traduction de Kuhn, elle est un peu plus concrète. Et il disait, entre autres, l'amour ne comptabilise pas les fautes des autres. Il ne se réjouit pas de l'injustice. On avait dit aussi, attention à nos plaisanteries, du style, ah ben, c'est bien fait pour lui, il ne l'a pas volé. On n'est pas là pour se réjouir du malheur des autres, même s'il est mérité. L'amour est fait de bonté, de patience, de bienveillance. Et on avait passé du temps sur « il se réjouit avec la vérité ». Et c'est là aussi que la vérité de la parole de Dieu, on doit tout faire pour la respecter. Ça fait partie de l'amour, de veiller à ce que la parole de Dieu soit respectée. Et à une époque où les gens lisent de moins en moins la Bible, y compris les chrétiens, je crois que c'est important de se rappeler de ça. L'amour se réjouit avec la vérité. Et non pas de la vérité, hein, se réjouit avec la vérité. L'amour espère tout, refuse de voir l'échec comme définitif. Ça, c'est important. C'est aussi ce qui motive la maison d'Élie. Si quelqu'un a échoué, si quelqu'un se comporte mal ou autre, on ne veut pas voir ça comme définitif. L'amour supporte tout. Et l'amour tient ferme. On avait parlé après de « Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. » Et là, j'aime énormément ce que Kuhn expliquait, c'est à l'exemple de Jésus. On n'accueille pas les gens de façon sociale, courtoise, humaine, mais on accueille comme le Christ nous a accueillis. Bien accueillir, ça peut devenir effectivement moralisateur. Mais accueillir comme Christ, c'est autre chose. Ça veut dire que je vais faire l'effort de dire « qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ?» Et le problème, c'est que, et c'est là que ça se complique pour nous aussi, c'est que Jésus ne laissait pas les gens dans l'état où ils étaient. Il accueillait le lépreux, mais il le guérissait. Il accueillait la femme adultère, mais il disait « va, il ne pêche plus », etc. Accueillir comme Christ, c'est pas quelque chose de moral, faut être gentil, faut être mignon avec tout le monde, et on les accueille, et on les entoure. Non, non, non. Jésus, accueillons comme Jésus. C'est-à-dire, Jésus accueillait, oui, mais après, il leur partageait la vérité. Et la vérité, c'était « va, il ne pêche plus ». Et accueillir comme Jésus, ce n'est pas accueillir comme on accueillerait dans le monde. Exhortez-vous les uns les autres, encouragez, consolez, réconfortez, ça on sait bien ce que ça veut dire. Mais j'avais bien aimé ce qu'avait ajouté Kuhn, il ne s'agit pas de faire la morale. Exhorter, ce n'est pas faire la morale. C'est bien ce que tu fais, c'est mal ce que tu fais. Moi, à ta place, je ne ferai pas ça. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Et voilà ce que dit la parole de Dieu, c'est accueillir en fonction de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Accueillir à cause de la dignité, exhorter, je veux dire, à cause de la dignité d'être enfant de Dieu. Alors bon, on avait donné tous les versets, là j'ai pas le temps de vous donner toutes les références. Et accueillir, exhorter en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Donc on n'est pas du tout dans la moralisation là. Quand j'exhorte quelqu'un, je reprends, j'encourage, je console, je réconforte, etc. C'est parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu t'a pardonné. À cause de ce que Dieu a fait pour toi, tu ne vas pas pouvoir te comporter comme ça. Je vais t'exhorter à ne pas faire ça parce que tu es une enfant de Dieu précieuse à ses yeux. Et je vais t'exhorter parce qu'on va s'appuyer sur les promesses que Dieu a fait pour toi. Dieu a des belles promesses pour toi. Tu ne vas pas passer à côté. Vous voyez, on est loin du « il faut pas, tu dois pas, sinon le Seigneur, et puis moi je sais, etc. » On est complètement loin de ça. C'est « je t'exhorte, je répète que c'est tellement important, en fonction de ce que Dieu a fait pour toi, le salut qu'il t'a donné, le pardon, à cause de la dignité que tu es un enfant de Dieu, et en s'appuyant sur les promesses de Dieu pour toi. Essayons de retenir ces trois choses. Ça me semble tellement important quand on exhorte quelqu'un ou qu'on le reprend. On n'est pas du tout dans le « tu dois pas ». C'est à cause de ces trois choses. Et si on reste là-dessus, on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans la moralisation. Ensuite, on avait vu « instruisez-vous, exhortez-vous ». « Instruisez-vous » s'adresse à l'intelligence, parce que la Bible s'adresse aussi à notre intelligence. Dieu nous a donné une intelligence. Il faut qu'elle soit sanctifiée, il faut qu'elle soit soumise à Dieu. Mais il s'adresse à notre intelligence. Hein? Et puis, exhorter, ça s'adresse plus à la volonté. Et on avait terminé par « veillons les uns sur les autres ». Et alors là, évidemment, tout le monde a peur du flicage, c'est normal. Mais veillons sur les uns sur les autres, c'est dans le but de se protéger du péché, parce que nous sommes un corps. Et si mon frère ou ma sœur fait une grosse bêtise, ça va forcément rejaillir sur moi. Moi, je suis préoccupée par les évangéliques américains, parce que leurs mauvaises décisions, on va dire, vont rejaillir sur les évangéliques du monde entier. On va être classifiés comme, voilà, je préfère ne pas le dire, mais c'est dommage. Donc, quand on veille sur les uns sur les autres, c'est dans l'optique de se protéger aussi soi-même, protéger les autres et se protéger soi-même. Veillons les uns les autres, la Bible dit, pour nous stimuler à l'amour et aux œuvres bonnes. C'est vraiment encourager à faire bien, c'est pas « tu fais mal, je te rejette », etc. C'est « allez, tu vas y arriver », non, non, ne prends pas cette décision. Ne prends pas cette décision parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est là pour toi. Tu peux faire autrement, tu peux agir mieux que ça. Ce n'est pas du flicage. Et puis, le verset sur lequel on avait terminé, c'est « veillez les uns sur les autres pour que personne ne se prive de la grâce ». Et ça, ça m'a plu. Vous voyez, l'optique n'est pas du tout dans le « tu dois pas et je te fais la morale ». C'est « mais que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu ». Mais misère ne te prive pas de la grâce de Dieu. Et bon, après, bien sûr, on peut faire tout ça et que la personne décide quand même de persévérer dans son attitude. On est plus responsable, mais on a au moins fait ce que le Seigneur nous demandait, hein, qui est de vraiment veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Après, les gens ont le choix. S'ils ne veulent pas, ben c'est comme ça. Hein. Jésus, devant le jeune homme riche, il n'a pas insisté. Mais je crois que la perspective de l'Église, c'est vraiment ça, de s'aimer les uns les autres, s'accueillir, s'exhorter, veiller. Je pense qu'on continuera avec d'autres les uns les autres plus tard. Mais j'ai bien aimé cet accent que Alfred Kuhn met sur tout est en rapport à Jésus. Si Jésus n'est pas au centre de ce les uns les autres, c'est un code de bonne conduite qu'on n'arrivera de toute façon pas à faire. Et puis voilà. Hein? Mais si Jésus est au centre, si on veut faire comme lui, si on veut agir comme lui, parler comme lui, rappeler ses promesses, rappeler aux gens qui sont enfants de Dieu, et c'est un statut hyper précieux, alors le les uns les autres va être plus facile à vivre, je pense, et pour l'église locale. Et je pense que c'était bien de garder tout ça présent à l'esprit. J'ai fait un résumé de, je sais pas, 5 ou 6 messages, donc c'est un peu condensé. Je n'ai pas donné les versets, mais bon, vous les avez dans les autres messages si vous voulez les réécouter. Je pense que ça aide dans la vision qui va être mise en place. Que Christ reste au centre, que la parole de Dieu soit honorée comme étant notre référence. Et si bien que soient les messages, les prédications, les prophéties, les exhortations des uns et des autres, c'est la parole de Dieu qui doit rester au centre, qui doit être numéro 1. Et la personne de Jésus. Et c'est pour ça que je disais la semaine dernière, relisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Relisez ces évangiles et regardez un peu les comportements de Jésus. Si on veut faire comme lui, il faut savoir comment il a fait. Et alors vous allez me dire, oui, mais dans mon église, moi je me souviens d'une dame qui avait dit une fois, oui, mais mon pasteur, il disait ça. Je dis, mais oui, mais bon, la parole de Dieu a dit autre chose. Pasteur, il peut se tromper, il peut avoir légèrement dévié. Enfin, on est humain, mais... La parole de Dieu. Donc revenons à Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et moi, je vous conseille vraiment de relire les évangiles, là, dans les semaines qui viennent, surtout si vous voulez travailler sur la vision. Si on veut que la vision corresponde au regard de Jésus, qu'elle corresponde à son amour, à tout ce qu'il a fait pour nous, eh bien, il faut relire. Et attardez-vous sur où il était, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, comment il s'est comporté. Face à l'injure, face au mépris, face à l'hypocrisie, face aux difficultés et face aux gens ouverts, comme dit Nicodème. Oui, j'aime bien, moi, cet épisode avec Nicodème. Il y a beaucoup d'humour dans cet épisode. Voilà, regardez comment il a réagi. Et puis là, je pense qu'on peut faire une vision qui tient la route, hein, qui ne sera pas basée sur « je pense, je crois, je veux, j'aimerais », mais sur « Seigneur, on veut être comme toi. On fera de notre mieux pour te suivre, pour t'obéir, pour te plaire, pour te faire plaisir. » Et on veut coller à ce que tu as fait toi quand tu étais sur terre. Parce que, bah, quelque part, l'Église, c'est un pâle reflet de ce que Jésus faisait sur terre. Et il est un peu trop pâle parfois. Hein, on en est bien conscient et on s'en repent régulièrement. Voilà, donc bon courage pour la vision. Comme dit André, on ne participe pas. Mais on prie que ce soit vraiment centré sur Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et là, ce ne sera pas un code, ni non plus un wishful thinking, quelque chose qu'on espère, voyez, oui, on voudrait avoir la meilleure église de la région avec ceci, cela, etc. Non, 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 non. Seigneur, on veut vraiment que tu nous inspires comment on doit être, comment on doit faire, à partir de ton comportement à toi. Et vous allez voir, la vision, elle va être belle, et puis elle sera beaucoup plus facile à suivre, parce que si chacun lève les yeux vers Jésus, ça sera beaucoup plus facile à mettre en pratique. Voilà.